Du jour, c'est celle de Vladimir Poutine hier soir à Koursk lors de cette cérémonie célébrant le 80e anniversaire de cette grande victoire soviétique sur les troupes nazies, au moment où Prigojine, son ancien fidèle devenu rebelle, trouvait visiblement la mort. Poutine saluait, je cite, le dévouement et la loyauté des soldats russes en Ukraine. Vera Grantseva, question que tout le monde se pose aujourd'hui, l'homme fort du Kremlin a-t-il orchestré cette symphonie macabre qui décapite le groupe Wagner ?
Bon, minimum, c'est une coïncidence qui est assez exceptionnelle pour l'histoire de la Russie, peut-être de l'humanité, parce que au même moment, quand on a découvert que Prigojine a perdu sa vie dans un accident d'avion, Poutine effectivement a organisé une visite dans un concert où il y avait aussi les musiciens derrière son dos. Les musiciens, ça fait aussi l'allusion en fait au groupe de Wagner.
C'est le surnom, en effet.
Ouais. Exactement, parce qu'entre eux, ils se nommaient comme ça. Qu'est-ce que les musiciens ont fait en Afrique, en Ukraine, etc. Donc c'était un message qui était assez fort que Poutine a passé au groupe de Wagner pour leur montrer que tout crime qui sera commis contre le régime de Poutine, toute histoire quand il y a une sorte de manque de loyauté, ça va finir toujours par la mort, parce que c'est comme ça que Poutine va punir les mutants comme Prigojine.
Voilà. Plus largement, le cycle Prigojine se ferme en réalité, puisqu'il y a eu le putsch, mais avant ça, il y a eu énormément de diatribes à l'encontre, notamment des structures de force en Russie de la part de Yevgeny Prigojine. On sait qu'il avait pris beaucoup de liberté depuis l'automne dernier, en fait, à peu près, depuis le moment où il avait fait son coming out, en réalité, où il avait révélé au monde qu'il était à la tête de la milice Wagner. Évidemment, c'était un secret de Polichinelle. Mais là, il l'a dit. Et donc, de fait, il a pris beaucoup plus de pouvoir. Et à partir de là, Vladimir Poutine s'est retrouvé un petit peu dépassé, n'arrivant pas finalement à tenir cet homme. C'est un peu la créature finalement de Frankenstein qui se libère de son créateur, qui se libère de ses chaînes. Et là, Vladimir Poutine finalement a mis un coup d'arrêt à cette liberté très, très surveillée.
Mais Prigojine a toujours volé sur Hubris Airlines. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été saisi, comme le Troadec l'a été par la débauche, par une ambition politique. Tant qu'il est un homme de l'ombre, qui cultive le mystère et le secret, tout va bien. Quand il commence, et là pour moi c'est une sorte de métaphore mythologique, qu'il soit foudroyé entre ciel et terre n'est pas fortuit, c'est-à-dire que c'est le complexe d'Icare. Quand il commence à s'approcher du soleil du pouvoir, à caresser l'idée, encouragé sans doute par son entourage, que peut-être il a un destin national et politique, c'est là qu'il devient gênant, dangereux et problématique pour l'appareil d'État. Il faut se souvenir que lors de la mutinerie avortée, il y a eu quand même entre 13 et 15 morts, selon les décomptes, des pilotes, des copilotes, des mécaniciens, pilotes d'hélicoptères et d'avions, qui ont été tués par les hommes de Prigojine. Et donc au sein de l'armée de l'air, il y avait un intense ressentiment et un appétit de vengeance qui a été constaté par tous ceux qui sont familiers de l'appareil sécuritaire et militaire russe. Donc, moi, mon hypothèse est que ça a été conduit par des gens de la défense antiaérienne, mais qu'évidemment, rien ne peut se faire sans, à minima, un feu vert ou un nihil obstat venant du Kremlin.
Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель.
Voilà. Patriotique à ce décès. Il essaie de présenter cet accident comme juste un accident, finalement. Donc, bien sûr qu'ils vont éviter la situation quand il y aura une grande, pas fête quand même, mais un événement qui va commémorer un patriote qui a été tué, etc. Parce que ça serait l'occasion de voir que même entre les patriotes en Russie, il y a une sorte de clivage, une division. Parce qu'on a vu que la mutinerie a déjà divisé les patriotes, ceux qui se sont mis du côté de Prigojine et ceux qui sont mis du côté de Poutine. Et la mort de Prigogine, elle radicalise encore plus cette division entre les patriotes. Et maintenant, en Russie, les patriotes sont un peu perdus. Qu'est-ce que ça veut dire être un patriote? Et quel sera le sort, finalement, de patriotes? Est-ce que le patriote comme Prigogine, il va aussi être tué par le régime, même s'il soutenait à fond la guerre en Ukraine?
Justement, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler un état quantique, en fait. C'est-à-dire que on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Concrètement, Vladimir Poutine là a restructuré la verticale du pouvoir et a montré au monde il tenait encore les rênes de son pays et qu'il n'était pas question qu'il y ait des débordements. Par contre, on peut aussi le voir comme une marque de faiblesse. En fait, quand vous montrez de façon aussi claire que la seule possibilité de tenir
l'élimination d'un ancien compagnon de route.
Si on part du principe qu'il l'a éliminé, ce qui est à nouveau, il faut faire attention, bien sûr, ça n'est pas tout à fait certain, même si c'est probable. Dans tous les cas, on est sur un entre-deux et j'aurais tendance à penser, moi, justement, à partir du moment où vous montrez au monde qui vous êtes réellement, alors que vous avez fait croire pendant 23 ans que vous étiez une démocratie, etc., etc., aujourd'hui, la faille de la vérité apparaît, en fait, et potentiellement, il pourrait s'en retrouver fragilisé.
C'est aussi au fil des 18 mois écoulés, notamment dirigé vers ceux qu'on appelle par communauté de langage les oligarques, mais qui n'ont pas toujours l'influence politique qu'on leur prête. Le devoir de patriotisme a été rappelé, non sans une certaine forme de populisme, pendant que nos enfants vont au casse-pipe, vous passez vos vacances tranquillement, ce que font d'ailleurs les proches de Poutine en Europe, en Italie, en Espagne.
Ça, c'était le discours de Prigogine, ça, en effet, c'est ce qu'il disait.
Alors, par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes d'archives, vous auriez pu remonter 4 ans plus tôt. Oui. Et vous auriez retrouvé cette interview extrêmement théâtrale où la question est-ce que vous pardonnez, demande-t-on à Poutine. Il dit oui, je pardonne, sauf quoi? Sauf la trahison. Et la thématique de la trahison, elle est là, elle est en 2022. Elle est au soir du 24 ou 25 juin dernier, quand il prend la parole. Il y a tout un passage à nouveau sur la trahison. Et d'ailleurs, Prigogine, dans les échanges qu'il a avec ses très proches, considère que c'est là que ça bascule. C'est-à-dire qu'il dit à l'un de ses intimes, d'après des écoutes qui ont été captées par ceux dont c'est le métier, il dit « jusque-là, je croyais que j'avais 95% de l'armée avec moi ». J'ai compris à ce moment qu'il n'y avait que 40%. Il décide de faire volte-face, ce qui d'ailleurs suscite le courroux de Dmitri Outkin, le chef militaire historique, qui lui voulait absolument aller jusqu'au bout.
Justement,
pour l'instant, c'est sûr qu'il est décapité, parce qu'il y avait deux leaders principaux, qui étaient même les symboles, et qui dirigeaient sur le terrain toutes les opérations de Wagner. C'était Yevgeny Prigogine, qui était responsable pour tout ce qui était côté business, commercial, et il représentait aussi le groupe de Wagner à l'extérieur, ça veut dire qu'il se présentait comme son leader et il interagissait avec les médias et même il avait ses propres médias. Et Dmitri Outkin, c'était plutôt un responsable pour toutes les opérations militaires. C'est quelqu'un qui a un parcours assez incroyable. Il était en militaire russe professionnel. Il faisait partie d'une brigade de GRU, donc le renseignement militaire. Et en 2013, il est allé même presque le premier, déjà en Syrie, comme un membre d'un corps de slave, qu'on appelait le corps slave, pour défendre le régime de Bachar al-Assad. Et c'est qu'après, il a joint le groupe de Wagner, et d'ailleurs, le groupe de Wagner est nommé selon lui, parce que c'était son surnom, parce qu'il était connu comme admirateur de régime, en fait, de nazi, et le compositeur préféré d'Adolf Hitler à Wagner. Donc, c'était deux personnes principales qui sont disparues maintenant, et bien sûr, il faut faudra soit chercher les nouveaux leaders.
On sait déjà s'il y a un remplaçant, enfin officiel ou pas, je ne sais pas si...
Officiel, non. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une sorte de débat entre ceux qui sont restés dans le groupe de Wagner, mais ils n'arrivent pas pour l'instant à définir qui peut être un leader, et même si quelqu'un voudra remplacer finalement Prigogine et Outkin.
Place pour place, je ne le crois pas. Je pense que la logique du Kremlin, depuis singulièrement la mutinerie avortée de juin, c'est la mise sous tutelle des actifs Wagner en Afrique, parce que, et on le sent d'ailleurs dans l'ultime vidéo de Prigogine, s'il a bien rejoint le village des ancêtres, comme on dit en Afrique, où il est censé être au Sahel, moi je l'ai tout de suite perçu comme une sorte de rappel, d'ultime tentative de convaincre qu'on avait encore besoin de lui. Or, toute la logique, c'est de considérer qu'il faut absolument garder la poule aux œufs d'or africaine, le pactole, notamment minier, mais aussi politique, mais aussi sécuritaire, et que pour ça, donc, il faut en quelque sorte remplacer Wagner sans anéantir le système. Et c'est la raison pour laquelle j'ai la conviction qu'il y a un personnage qui est assez méconnu, mais qui est en train de jouer un rôle absolument crucial. C'est un général qui s'appelle Andrei Averianov, qui est le numéro 2 du GRU, le renseignement militaire, chargé des opérations spéciales, et qui est apparu assez étrangement au moment du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, où, très franchement, sa raison sociale ne le conduisait pas naturellement à s'y trouver. Et d'après des sources concordantes et assez fiables, c'est quelqu'un qui a joué un rôle considérable dans l'assèchement du marigot Wagner. Reste maintenant, et je termine là-dessus, à faire en sorte que les liens personnels que Prigogine avait pu instaurer, notamment avec des juntes sahéliennes ou le président Touadéra en Centrafrique, va pouvoir être maintenu avec d'autres acteurs.
Ouais. Alors, dire, c'est que la multiplication de ces milices depuis à peu près un an montre bien que ce qui avait fonctionné avec Wagner a fait des émules, que... est-ce que ça a été décidé au sommet de l'État russe ou est-ce que ça a été décidé de façon individuelle par tel oligarque ou par tel homme politique, par exemple? On ne sait pas exactement. En tout cas, on a de plus en plus de milices. On a de plus en plus de milices qui potentiellement vont partir à l'étranger et qui potentiellement vont essayer de répéter ce que la milice Wagner avait fait et avait avec succès, finalement. Et il faut bien se rappeler qu'il y a trois éléments importants dans cette milice Wagner. Il y a l'aspect militaire, évidemment, mais il y a aussi l'aspect informationnel, très très important, et il y a l'aspect économique, effectivement. Et à chaque fois, ces trois éléments sont liés quand la milice arrive, par exemple, au Mali ou en Centrafrique.
Véra, la mutinerie qui a eu lieu à fin juin en Russie et les négociations qui ont suivi cette mutinerie, parce qu'on sait que Poutine a rencontré Prigogine, qui était enterré par 30 leader du groupe de Wagner, finalement a divisé le groupe de Wagner. Donc il y a ceux qui sont restés loyaux à 100% à Prigogine, et d'ailleurs c'est plutôt eux qui sont partis en Biélorussie avec lui. Et il y avait ceux qui ont décidé apparemment quand même de signer le contrat avec l'armée russe et de se trouver une place plus légitime et légale dans l'État russe. Par contre, quand même, il y a ceux qui sont restés très loyaux, et aujourd'hui avec la mort de Wagner, la mort de Prigogine, bien sûr, ils se sont trahis. Il déclare ça, il réclame en fait presque la vengeance sur la mort de Prigogine. Ils ont appelé les traîtres, ceux qui ont organisé l'assassinat de Prigogine.
Un nouveau traître,
effectivement. Et même s'ils n'ont pas beaucoup d'écho dans la société russe, il ne faut pas exagérer leur influence, quand même leur influence au sein d'un groupe de soutien de guerre, des ultranationalistes russes, qui est un groupe essentiel de soutien de cette guerre dans la société russe, il est important. Donc ce que j'ai vu, ils ont appelé déjà à sortir dans les rues dimanche. Donc ils appellent de faire les mémorials consacrés à Prigogine, et on a vu dans quelques villes les mémorials, mais faire de grandes manifestations, ils sont très loin de cela.
Ils sont le normalement. Mes reportages et tous les rapports que j'ai lus depuis attestent que les Wagner sont plus performants dans la prédation et dans l'exaction que dans le combat frontal contre les djihadistes. Il ne faut pas oublier qu'ils se sont aussi, au passage, pris des raclées. Le Cabo Delgado, qui est une région du nord du Mozambique, lieu d'un foyer djihadiste local, ils sont partis en courant et c'est les Sud-Africains que Maputo est allé chercher pour les suppléer. Donc ce qui est clair et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tout ce qui se passe, que ce soit le putsch au Niger ou cet épisode, ce sont d'excellentes nouvelles pour les cerveaux du djihadisme sahélien. Parce que tout ce qui contribue à la ruine d'institutions aux demeurant très fragiles, à la déstabilisation de ces régimes, permet effectivement à ces stratèges d'imaginer ce que Houellebecq appellerait l'extension du domaine de la lutte jusqu'aux pays côtiers. Ouais, c'est ça le projet. Luc, l'effet d'aubaine, hein, la stratégie russe est parfaitement opportuniste. Imaginer que les coups d'État successifs ont été ourdis dans une officine du Kremlin est un non-sens.
À mon avis, c'est ça la stratégie qui est choisie, de passer sous silence, de minimiser, de présenter ça comme Occident, pour ne pas effectivement agiter ceux qui suivent quand même le destin de Prigogine, pour ne pas agiter le débat au sein de la société russe, parce qu'encore une fois, ça provoque un débat. La mutinerie a provoqué beaucoup de débats. Pourquoi Poutine allait laisser cette situation se développer? Pourquoi Poutine ne contrôlait pas tout, comme il disait pendant plusieurs années? Et aujourd'hui aussi, quand même, en avion abattu, bon, c'est une hypothèse, mais quand même, on a vu que l'avion est tombé et il y avait un problème. Ça aussi provoque des débats et les questionnements par rapport au régime et ses méthodes envers sa population.